Donc, ce matin, je continue ce que j'avais commencé dans ce chapitre de. Alors, oui, bienvenue à Mario.
Merci.
Qui est au milieu de nous ce matin. Et puis, il y a ceux qui nous suivent donc, par visioconférence. Donc, je les bénis aussi dans le nom du Seigneur. Dimanche dernier, je vous avais donc partagé un certain nombre de choses donc sur ce texte de la Thessaloniciens, la fin du chapitre 4 et puis le chapitre 5. Qu'est-ce qu'il nous disait, qu'est-ce que j'avais partagé? Je me rappelle juste, bon, donc Paul était en train de parler sur notre départ, c'est-à-dire notre mort, mais aussi de cette espérance qui est attachée aux chrétiens. Et voilà, comme je le disais la dernière fois, un dimanche dernier, c'est moi, hein, et j'en suis convaincu, c'est-à-dire que ce serait une folie, mais totale, complète pour moi, excusez-moi de le dire ça aussi en même temps, je pense pour chaque enfant de Dieu, de ne pas vivre avec cette perspective que Jésus revient, ou que même si on meurt avant que Jésus revienne, en tout cas, ma perspective, c'est la vie de l'éternité. Donc, je vis ma vie tous les jours dans ce monde, mais avec cette vision qu'un jour, je vivrai l'éternité. Et je pense que vivre comme ça, ça change quand même pas mal de choses. Il y a toutes ces choses de la terre qui sont là, mais puis je suis bien obligé de les vivre comme vous, mais je les vis avec cette espérance. Et ça touche ma vie. Je pense que ça touche la vôtre aussi. Et puis, donc, du coup, eh bien, je vis avec cette notion qui est développée, que Paul va développer justement dans 1 Thessaloniciens 5, avec cette notion d'être prêt à rencontrer notre Seigneur. Et je vous le rappelle de nouveau ce matin, que ce que disait l'apôtre Paul n'était pas d'ailleurs en train de le dire au monde, même si par ricochet, ça les concerne aussi. Mais il était en train de le partager à l'Église, à des chrétiens. Il disait aux chrétiens, il faut se préparer, il faut être prêt à ce que Jésus revienne, en tout cas à ce qu'un jour on le rencontrera face à face. Et il rappelait une chose, c'est que on doit tout le temps être prêt. Parce que, premièrement, je ne sais pas si vous connaissez, vous, le jour de votre mort. Non. Mais moi, je ne la connais pas. Enfin, la mienne, je ne la connais pas. Et donc, pour dire ça, ça veut dire que finalement, mais à chaque instant de ma vie, je dois être prêt. Peut-être que je vais sortir, là, tout à l'heure, et puis que je partirai. Je ne sais pas. Mais toi non plus, tu ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, eh bien, c'est que je dois me préparer, je dois être prêt. Donc, il disait une chose particulière aux chrétiens de Thessalonique. Il disait, voilà, il ne faut surtout pas, en tout cas, ne vous laissez pas gagner par le sommeil. Alors, vous savez quoi? Dieu nous connaît bien. Et il parlait bien sûr du sommeil spirituel. Et ce qui est, d'ailleurs, dans cette période que nous vivons de confinement, il y a le danger justement soit de tomber dans le sommeil spirituel parce que on se laisse vivre par notre vie du monde, ce qui est logique, hein, on vit tous de toute façon dans la société, dans le monde, et puis on laisse de côté notre vie d'enfant de Dieu. C'est un peu comme si on vit mais sans penser et sans vivre la perspective du retour de Jésus. Et d'ailleurs, j'aimerais vous lire justement par rapport à ça. Et cette semaine, alors je ne sais plus, je crois que c'était le feuillet du 17, je vais vous lire ce texte. En vacances, nous avons plus de temps. En lisons-nous la Bible et prions-nous plus? Le relâchement spirituel guette lorsque nous sommes oisifs, ou même après une victoire, et c'est ce qui est arrivé au roi David lui-même. L'effet que rapporte la lecture proposée viennent après un réveil formidable. Les murailles de Jérusalem ont été reconstruites, la loi de Dieu lue au peuple, prière publique impressionnante, mais il reste des adhérences paralysantes, une négligence du culte, un activisme sans repos et sans renouvellement. Est-ce si différent à notre époque? Je rajouterai particulièrement justement dans ce temps de confinement. Maintenant, pour lutter efficacement et constamment contre le péché, le chrétien a besoin de marcher fidèlement selon toute la parole de Dieu et par le Saint-Esprit qui renouvelle sa volonté. C'est quand la parole de Dieu a été redécouverte que les écarts ont pu être mis en évidence. L'histoire du peuple d'Israël, mais aussi l'histoire de l'Église, n'est qu'une suite de chutes et de redécouvertes de cette parole. La volonté humaine ne suffit pas pour marcher fidèlement. Nous avons besoin, plus que Néhémie, même aidé par le Saint-Esprit pour la mission qu'il devait remplir, le Saint-Esprit a choisi de résider en nous de manière permanente. Il n'était pas le cas du temps de Néhémie. Et nous avons aujourd'hui ce privilège-là. Alors, laissons-nous nous révéler nos écarts, que le Saint-Esprit nous révèle. Mais il faut être attentif à ce que le Saint-Esprit nous dit, bien entendu. Et donc ça, c'est ce petit feuillet du 17, mais voilà, qui j'avais envie de vous le repartager ce temps. Vivons comme des enfants de Dieu qui attendent le retour de Jésus. Alors, je vous avais aussi partagé sur le fait que Paul va donc donner aux Thessaliciens trois grands chapitres. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit la semaine dernière, mais le fait qu'on doit respecter les serviteurs de Dieu. Je vous ai d'ailleurs rappelé la semaine dernière que dans un certain sens, de toute façon, on est tous des serviteurs de Dieu. Chacun à notre place, chacun dans ce que Dieu nous a confié. Mais on est tous des serviteurs de Dieu, on a tous des choses à faire dans l'Église. Alors évidemment, bien sûr, quand on est serviteur de Dieu et quand on fait quelque chose, mais ça c'est aussi comme ça dans la société, eh bien on est critiquable, on est critiqué. Alors, la critique constructive n'est pas négative. Ce qui est négatif, c'est la critique destructive. Mais n'ayons pas peur de la critique, mais sachons évidemment quand on fait quelque chose, eh bien, on sera forcément critiqué. Mais Paul va dire ici aux Thessaloniciens, en tout cas, que nous devons apprendre à respecter les serviteurs de Dieu. On doit se respecter les uns les autres, parce qu'on est tous les uns les autres serviteurs de Dieu. On doit, vraiment dans notre façon de vivre et dans notre façon de vivre l'Église, dans notre façon d'être ensemble. Non, parce que le titre, je vous l'avais dit la semaine dernière, le titre dans la Bible, Parole vivante, c'est comment vivre ensemble en attendant le Seigneur. Je pense que donc, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, on est concerné les uns et les autres. Donc, respecter les serviteurs de Dieu, ça c'était le premier point sur lequel Paul mettait l'accent. Le deuxième point, c'était cette notion d'avertir ceux qui vivent sans discipline, c'est comme ça que c'est écrit dans ma Bible, mais aussi de reprendre quand c'est nécessaire et d'encourager. Et je vous avais justement fait remarquer la chose suivante, c'est que dans les verbes que Paul va employer, eh bien, il va employer deux verbes, avertir, reprendre, donc deux verbes, mais il va dire qu'il faut relever les découragés, qu'il faut encourager les timides, qu'il faut réconforter les créatifs, qu'il faut soutenir les faibles et qu'il faut être patient envers tous. Donc, même s'il y a deux verbes négatifs, en tout cas, il y avait cinq verbes positifs, on doit entrer dans cette dimension positive parce que Dieu est un Dieu qui nous emmène dans la bonne direction. Et puis, dans cette notion-là, il y avait aussi le fait qu'on doit sans cesse avoir en vue le bien des autres. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passe dans notre société, où on désirait, où on voudrait, et c'est ce que j'appelle aujourd'hui notre société qui nous pousse à être l'homme-Dieu. enfin, où tous nos regards sont tournés. C'est moi qui est important, les autres, tant pis pour eux. Mais il faut d'abord, c'est moi. Ça, c'est tout ce que nous projette notre société aujourd'hui. Mais c'est pas ce que nous dit la Bible. Et c'est pas ce que Dieu a fait. Et c'est pas ce que Jésus nous a montré. C'est pas l'exemple de Jésus. Parce que l'exemple de Jésus, c'est celui qui s'est tourné vers l'autre. Et celui qui a en vue le bien des autres. Et donc, Paul va dire aux Thessaloniciens qu'on doit prendre garde, nous chrétiens. Ouais, je répète, hein, il est en train de s'adresser à des chrétiens. Prenez garde que, premièrement, que personne ne rende le mal pour le mal. Ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, que non seulement on ne va pas rendre le mal pour le mal, mais en plus, on va faire du bien, même à celui qui nous fait du mal. Ça, c'est vraiment la pensée de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous montre. Parce que Dieu nous fait du bien, pourtant lui, nous, on lui fait plutôt du mal que du bien, en général. À cause de notre péché, par exemple. Alors, en tout cas, ayez sans cesse en vue le bien des autres. Mais pas seulement dans l'Église, parce que Paul va dire qu'il s'agisse de vos frères ou même de tout le monde. Alors, voilà, on a une grande réflexion à mener par rapport à tout ça. Et donc, j'en arrive au troisième point, et où là, je vais vous développer aujourd'hui. Hein, c'est ce troisième point où on va retrouver des choses à la fois simples, il me semble, mais qui sont nécessaires pour chacun de nous. Et le titre de ce troisième point, c'est « La bonne attitude ». On a, en tant que chrétien, à projeter, à montrer, à vivre, à avoir une bonne attitude. Alors, la bonne attitude, Paul va donner quatre points. Je compte 1, 2, 3, 4 points. Je vais donc vous présenter ce matin. Le premier point, qui est aussi d'ailleurs parce que Dieu avait mis sur mon cœur pour cette année, pour l'Église, eh bien, on va le retrouver au verset 16 de 1 Thessaloniciens 5, où Paul va dire à l'église de Thessalonique, Paul le dit à l'église de Brouillé ce matin, enfin il le dit à chacun d'entre nous ce matin, il va dire ceci, « Conservez en tout temps votre joie. » Voilà, « Conservez en tout temps. » Ce n'est pas écrit conservez, quand tout va bien, votre joie. C'est conserver en tout temps. C'est-à-dire quand le temps est calme, quand le soleil brille, mais aussi quand le ciel est rempli de nuages, ou même quand la tempête est en train de se déchaîner. Conservez en tout temps votre joie. Alors peut-être, vous pouvez dire, ouais, ça c'est ok, d'accord, c'est écrit comme ça. Mais quand je suis face à la tempête, je fais comment, Seigneur? Je suis sûr que vous êtes, enfin, je ne sais pas ce que vous vivez, forcément ce que vous vivez de façon particulière en ce moment. Peut-être que vous êtes en train de vivre un temps où le soleil brille. Merci Seigneur pour ça. Mais peut-être que vous êtes en train de vivre un temps où c'est compliqué. Ou c'est peut-être la tempête aussi. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous dire merci Seigneur pour ça aussi. Jésus nous enseigne que nous devons remercier Dieu pour toutes choses, pour les bonnes comme pour les mauvaises choses. Et je suis comme vous, j'aime pas les mauvaises choses. Mais souvent, d'ailleurs, entre parenthèses, je reconnais au bout d'un certain temps que premièrement, Dieu ne m'abandonne jamais. Et que, justement, quand Paul va dire « conservez en tout temps votre joie », il savait vraiment de quoi il parlait. Hein, vous connaissez la vie de l'apôtre Paul. Souvent, d'ailleurs, je me suis dit, moi, un petit serviteur de Dieu que je suis, wow, qu'est-ce que j'aimerais bien être l'apôtre Paul. Vous n'êtes jamais dit ça, vous. Quand on voit les choses extraordinaires, le ministère extraordinaire qu'il a eu. Et peut-être que c'est sans regarder le prix qu'il a payé quand même. Hein. Le nombre de fois où il a été lapidé, où il a été emprisonné. Il a subi des souffrances. Un poids de souffrance. Et Paul, ce Paul-là, alors qu'il était en prison, vous connaissez ce fameux verset Philippiens 4:4, hein, je peux peut-être vous le relire d'ailleurs, on est en train de parler de la joie. Mais parce qu'il y a là le secret. Parce que quand Paul va dire avoir la bonne attitude, frères et sœurs, c'est conserver en tout temps notre joie, en tout temps. Et Paul, dans Philippiens chapitre 4, il va dire, mes amis, réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur. Et réjouissez-vous, pourquoi? Eh bien, parce que le Seigneur va réjouir d'être dans la main du Seigneur et de tout ce qu'il est pour vous. Je me réjouis de ce que Dieu est pour moi en tout temps. Parce que même dans la tempête, eh bien, Dieu est pour moi. Même dans la difficulté, eh bien, Dieu est pour moi. Même si ma nature, même si ma chair n'aime pas la tempête et la difficulté, mais Dieu est quand même pour moi. Et puis, le secret, il est là, dans Philippiens 4, Paul va dire, lui, je le répète, trouvez votre joie en lui. Trouvez votre joie en lui. Ça me rappelle le regard que nous pouvons avoir sur nos situations. Eh bien, mon regard est uniquement fixé sur toutes mes difficultés. Ça, c'est naturel. C'est notre nature. Mais quand je fais, comme l'apôtre Paul va dire, qu'on doit faire mourir cette nature charnelle et se laisser régénérer par ce que Dieu est capable de faire en nous. Alors, notre regard, plutôt que de se focaliser sur les difficultés du moment, se focalise sur ce que Dieu est capable de faire pour moi. Je trouve ma joie en Dieu. Je trouve ma joie en Jésus. Et ça fait toute la différence. Ça me rend capable de conserver ma joie en tout temps. Je ne suis pas en train de vous dire. En tout cas, de mes expériences. Vous savez, quand il m'arrive un coup de massue, je m'encaisse, moi. Ça fait mal. Et je ne vais pas dire que quand je reçois le coup, eh bien, j'explose de joie. Mais, quand je reçois le coup de massue, et quand je viens au pied du Seigneur, et quand je lui donne, même quand je lui dis, Seigneur, tu vois, c'est trop pour moi, je ne peux plus. Mais, Seigneur, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu m'aimes. Alors ça me suffit. C'est ce que l'apôtre Paul disait, mais maintenant je suis en train de vous dire, c'est ce que je vis aussi dans cette dimension-là. J'ai trouvé là un secret extraordinaire. Et je comprends tellement ce que Dieu, ce que Paul est en train de dire ici, conservez en tout temps votre joie. Ça ne veut pas dire que ma joie n'est pas à un instant affectée. Mais en tout cas, je peux la retrouver en Jésus. Je peux la retrouver dans ma confiance totale, entière, en ce qu'il est capable de faire dans ma vie, même dans la difficulté, même quand le soleil n'est pas en train de briller. Mais Paul savait de quoi il parlait. Et dans Romains chapitre 12, il va nous dire au verset 12 que votre joie découle de votre espérance. Ouais. Tu comprends ce qu'il dit. J'espère que tu comprends ce que Paul dit ici. Ma joie découle de ce que j'ai cette espérance en lui. J'ai cette espérance déjà, comme je disais tout à l'heure, et comme Paul nous disait au début, plutôt à la fin du chapitre 4 de Thessaloniciens, où on a cette espérance de toute façon qu'un jour on vivra l'éternité dans sa présence. Est-ce que c'est le trésor le plus précieux pour vous, frères et sœurs? Savoir qu'un jour on vivra l'éternité. Souvent je me dis, mais et je le dis aussi, je le dis aussi à l'Église, alors je me répète, excusez-moi. Mais ouais, c'est tellement précieux pour moi de savoir ça. Je sais que ma vie sur la terre, c'est une poussière. Ça peut me paraître long des fois. Ça peut paraître long. Pourtant, c'est qu'une poussière face à l'éternité, ça ne compte même pas. Vous avez déjà essayé de réfléchir dans votre esprit, enfin moi je n'y arrive pas d'ailleurs, à essayer de mettre une dimension à l'éternité. Mais en tout cas, c'est une poussière, quoi, face à notre vie d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Alors, Paul va dire que votre joie découle de votre expérience. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Là, il nous donne une clé. Priez avec régularité, avec persévérance. Se tourner vers notre Seigneur. Ouvrir nos cœurs. Déposer nos cœurs au Seigneur. Déposer, enfin, notre joie. Enfin, vous savez? Mais en tout cas, moi, ma nature, j'ai plutôt tendance, je viens devant le Seigneur, bien sûr, je dépose mes fardeaux, je dépose mes soucis, parce que, je vais dire autrement, dans notre nature charnelle, certainement, je suppose qu'on est un peu tous pareils, on aime se plaindre, je ne sais pas si on peut dire ça, mais on a tendance à savoir se plaindre. Ça, on sait faire. On sait peut-être moins dire merci, d'ailleurs, au Seigneur. Mais il faut qu'on apprenne ça aussi. Dans Philippiens, au chapitre 2, verset 17, Paul va dire, même si je dois passer par le martyr, Paul sait quoi il parle. Eh bien, il va dire, moi, je me réjouis. Je me réjouis de passer par le martyr. Mais il se réjouissait de ce que sa vie, au travers de ce qu'il était en train de vivre, eh bien, ça pouvait être au bénéfice des autres. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc, on doit toujours avoir en nous aussi le bien de l'autre. Et Paul le vivait. Donc ça, c'est la bonne attitude. Conservez en tout temps votre joie, le premier point. Est-ce que vous voulez entrer est-ce que vous êtes dans cette dimension-là? Ou est-ce que vous voulez entrer dans cette dimension-là? Bon, je ne peux pas répondre pour vous. Mais il me semble que dans notre attitude d'enfant de Dieu, eh bien, c'est la direction qu'on doit prendre, en tout cas. Et pourquoi je dis ça? Parce que je sais que dans mon vécu, eh bien, ça a pour moi été un grand privilège. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, où Paul va dire, il va nous parler, alors je vous lis, puis je vais essayer de me dépêcher, parce que je crois que je vais encore être trop long, que votre vie de prière ne se relâche pas. Dites merci à Dieu pour tout, encore une fois, pour toutes circonstances. Restez reconnaissant, quoi qu'il arrive. Alors, on dit, parce que, encore une fois, c'est facile à dire, mais Seigneur, je regardais avec ma vie, avec mes situations, avec mon vécu, que ma vie prière ne se relâche pas. Dis merci à Dieu en toutes circonstances. Reste reconnaissant, quoi qu'il arrive. Encore une fois, c'est facile pour nous d'être reconnaissant quand le soleil brille, pour notre vie. Mais Seigneur, je veux être reconnaissant pour ta fidélité, pour ton amour, même quand la tempête est là. Et Paul va dire, voilà ce que Dieu attend de vous. Voilà ce que Jésus attend de vous. Est-ce que Jésus attendrait de nous des choses impossibles? Est-ce que Jésus nous demanderait des choses qu'on serait incapable de vivre? Est-ce que Jésus est celui qui se tromperait? Je me refuse de penser ça. Je crois que Dieu sait ce qu'il dit. Il me connaît et il te connaît mieux que nous nous connaissons les uns les autres. Alors, restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Voilà la bonne attitude que Paul dit aux Thessaloniciens et que Paul dit ce matin à l'église de Bruel. Même si c'est quelquefois difficile, frère, c'est ça. C'est une décision. À un moment donné, c'est une décision qu'on doit prendre. C'est une direction qu'on doit prendre. Et puis au verset 25, Paul va dire, frères, priez aussi pour nous. On revient à cette notion, on est dans l'Église, dans le peuple de Dieu, on n'est jamais tout seul. On est une famille. On est des frères et des sœurs qui sont unis par le sang de Jésus. Ce n'est pas n'importe quoi qui nous unit. C'est le sang. On est du même sang. On est véritablement des frères et des sœurs. Donc, que notre vie de prière ne se relâche pas, ça, c'est le conseil fort que Paul va donner dans cette attitude. Je rappelle le contexte global de ce que je suis en train de partager. Comment vivre ensemble en attendant le retour du Seigneur? Eh bien, aussi au travers de notre vie de prière, cette vie qui ne doit pas se relâcher, au travers du fait qu'on doit être reconnaissant quoi qu'il arrive, et du fait que l'on prie les uns pour les autres. Je vais vous lire ce texte parce que Éphésiens 6, verset 18, nous dit ceci. Demeurez en communion avec l'Esprit de Dieu, par une prière persévérante. Car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche pas. Restez donc alerte, vigilant, attentif aux occasions favorables, rempli de l'Esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il aura mis dans votre cœur. Et même, Paul va jusqu'à dire, occupez vos veilles à crier à Dieu et à intercéder pour ses serviteurs. Au chapitre 5 d'Éphésiens, toujours verset 19, Paul va dire que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Et puis au verset 20, il va dire que où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus. Notre vie de prière, faisait ça, dans l'intercession les uns pour les autres, encore une fois, mais aussi dans la reconnaissance envers le Seigneur, pour tout ce qui nous arrive. Encore une fois, excusez-moi de redire la même chose, mais oui, reconnaissant pour le soleil qui brille, ça on sait faire. On a même, je vais dire ça comme ça, on n'a même pas besoin de l'Esprit de Dieu pour ça, hein, c'est naturel. Mais être reconnaissant, parce qu'on est tellement, on a tellement confiance au Seigneur, pour même les choses difficiles qui nous arrivent, là on a besoin de prendre la décision de laisser l'Esprit de Dieu agir dans nos vies pour que cela soit possible, parce que là on a besoin de l'action de Dieu dans nos cœurs. Et ça c'est justement le troisième point que Paul va dire aux Éphésiens, aux Philippiens, pardon, non, aux Thessaloniciens, excusez-moi, je vais y arriver. Mais au verset 19, pardon, il va dire « N'entravez pas l'action de l'Esprit, ne l'empêchez pas de vous éclairer, ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. » Ça, ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait qu'on ne doit pas se laisser endormir, on doit se réveiller. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous, ça veut dire que c'est possible. Ne dépréciez jamais les instructions ou les exhortations que les croyants animés par l'Esprit vous adressent. Même si quelquefois ça ne nous fait pas plaisir, quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous semble négatif, mais si ce quelqu'un est en train de bien dire quelque chose parce que Dieu lui a mis sur son cœur. Alors, ne méprisez pas, regardez, examinez toutes choses. Ne sous-estimez pas les révélations prophétiques. Et puis, écoutez-moi, écoutez ce que Paul dit. Il a dit, ne méprisez pas par votre conduite. Ne méprisez pas par votre conduite la parole que le Saint-Esprit vous adresse. Frères et sœurs, on peut mépriser par notre parole. On peut dire des choses, mais si ce qu'on dit ne correspond pas à ce qu'on vit, eh bien, on est en train de mépriser par notre conduite l'action de Dieu dans notre vie. Et plus que ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fait qui révèle enfin, ce comment vivre ensemble en attendant le Seigneur. Et là, je tiens juste votre attention que l'apôtre Paul, ce que l'apôtre Paul tentait de dire ici, ne méprisez pas par votre conduite la parole que le Saint-Esprit vous adresse, mais au contraire, mettez tout à l'épreuve et vérifiez, bien sûr, ce qu'on vous dit est exact. Retenez ce qui est bon. Et regardez en haut, cherchez la face de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous parle. Dieu est intéressé par notre vie. Dieu est intéressé par les décisions qu'on prend, par les choix qu'on fait. Est-ce qu'on est intéressé à se laisser conduire par le Saint-Esprit? Est-ce que je cherche à comprendre ce que Dieu me dit par sa parole? Est-ce que je cherche à saisir quand un frère, une sœur rempli du Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose? Alors, dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 30, il nous a dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Bon, vous connaissez ce texte. Mais écoutez, j'aimerais vous lire quand même. Parce que quand on parle que notre conduite, de mépriser le Saint-Esprit, enfin, Paul va dire plutôt ne méprisez pas par le Saint-Esprit par votre conduite. Eh bien, et dans Éphésiens, il va développer un certain nombre de choses, au chapitre 15, verset 30 à 32. Il va dire ceci, par exemple, notamment n'attristez pas le Saint-Esprit, donc ça veut dire qu'on peut le faire. Mais il va dire au contraire, faites plutôt disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur. Ouais. Toute aigreur. Faites disparaître. Toute rancune. Comment c'est possible? Sans l'aide du Seigneur. Sans l'action du Saint-Esprit dans la vie. Tout esprit de revendication. Bannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les crierailleries, les remarques blessantes, mais apprenez au contraire à être aimable, compréhensif les uns envers les autres. Aidez-vous entre vous, soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà ce que Paul va dire aux Éphésiens quand il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Il parle de la conduite. La façon dont on se comporte, la façon dont on est, la façon dont on vit. Vous savez, frères et sœurs, je ne sais pas si il y a au milieu de nous ce matin quelqu'un qui est parfait, comme Jésus l'était. Moi, je ne le suis pas. J'ai besoin que Dieu m'aide encore. J'ai besoin que Dieu travaille encore en moi. J'ai découvert, malgré tout, quelque chose, et je crois que ça, c'est la grâce de Dieu. Oh, quelle grâce, quoi. Bon, en tout cas, je le reçois comme une grâce incroyable, merveilleuse. Enfin, un cadeau extraordinaire de Dieu, c'est que quand je laisse le Saint-Esprit agir dans ma vie, c'est pour moi comme quelque chose d'impossible dans ma nature. Mais Dieu me rend capable, c'est lui qui me rend capable, tout ça je le réalise. Il me rend capable, je deviens capable de, enfin, on pourrait prendre, d'ailleurs on pourrait même reprendre tous les termes, mais je sais que Dieu me rend capable, par exemple, de faire disparaître en moi la rancune. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous dire que j'éprouve jamais de la rancune. Mais quand j'éprouve de la rancune, ça m'arrive. Mais que je me mets, enfin, peut-être que sur le coup, j'éprouve de la rancune, puis après je sais que Dieu, enfin, je sais que si je suis dans cette attitude-là, je ne suis pas en harmonie avec ce que Dieu veut. Quoi. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je suis devant un choix. Mais, comme je disais, Dieu nous rend capables. Mais quand Dieu me rend capable d'abandonner ma rancune, par exemple, mais quelle libération! La rancune mettait sur moi un poids qui est en train de m'écraser. Enfin, il y a l'expression qui dit quand il bouffait la vie. C'est ça me plie. Mais c'est comme le non-pardon, comme enfin, la colère, comme les autres choses. Dieu nous libère. Frères et sœurs, quand on rentre dans la dimension que Dieu sait ce qui est mieux pour nous, et Dieu sait que la rancune, ça ne nous ramènera à rien, si ce n'est nous faire du mal, ben Dieu sait que si on ne pardonne pas, ben, ça ne nous amènera qu'à nous faire du mal, etc., etc. Quelle grâce que Dieu me rend capable dans le Saint-Esprit, quand j'écoute le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit qui est en moi vient travailler mon cœur. C'est la raison pour laquelle il faut toujours écouter le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il faut lire la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut prendre ce temps de prier avant sa face, afin que le Saint-Esprit nous parle. Alors, dans toujours cette dimension de comment vivre ensemble en maintenant dans le Seigneur, eh bien, dans le dernier point que je vais vous aborder ce matin, eh bien, au chapitre, toujours dans 1 Thessaloniciens 5, chapitre, verset 22, pardon, il va dire ceci. Gardez-vous du mal sur toutes ses formes. Évitez même les apparences du mal. En fait, je vous m'en garde tout de suite. Quand Paul dit ça aux chrétiens, il n'est pas en train de parler du mal selon la pensée humaine. Il est en train de parler du mal selon la pensée de Dieu. Parce que, d'ailleurs, la Bible nous dit que l'homme considère mal ce que Dieu considère bien, et que l'homme va considérer bien ce que Dieu considère mal. Donc, prenons bien en compte ce que Paul est en train de dire ici. On est en train de parler de ce que Dieu, selon la pensée de Dieu. Gardons-nous du mal, évitons même les apparences. Et que le Dieu lui-même, le Dieu de paix lui-même, vous rendre pur, va vous rendre pur et entièrement consacré à lui. Entièrement consacré. Quelle est, encore une fois, la question qui est posée ici derrière, c'est quelle est la priorité de ma vie? Enfin, quelle est, pour moi, et enfin, seul, chacun d'entre nous, on peut répondre, hein, enfin, je ne peux pas répondre pour quelqu'un d'autre, je peux répondre pour moi, je peux répondre pour ma femme, ou pour mes enfants, ou pour... Quel est le trésor de ma vie? Quel est le trésor de ma vie? Mais si mon trésor, c'est ma relation avec le Seigneur, c'est d'être cet enfant de Dieu, alors, eh bien, Dieu, le Dieu de paix lui-même, il va me rendre pur et entièrement consacré à lui. C'est lui, parce que je prends cette décision-là, il va travailler en moi par le Saint-Esprit, il va toucher ma vie, il va changer. Je vous rappelle, frères et sœurs, d'ailleurs, entre parenthèses, encore une fois, que notre vie d'enfant de Dieu, c'est une vie qui est en construction. On n'est pas arrivé. Je ne suis pas arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Dieu a encore des choses à faire dans ta vie, comme il a des choses à faire dans notre vie. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on ne voit pas comme la Bible nous exhorte de nous juger les uns les autres, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir, si le Saint-Esprit nous montre quelque chose, qu'on ne doit pas aller dire à notre frère, écoute mon frère, mais on doit les dire avec cette dimension d'amour, parce que dans le cœur de Dieu, c'est quand Dieu va nous faire un reproche, par exemple, ça ne sera jamais pour nous écraser, pour nous mener la tête sous l'eau, ce sera toujours pour nous faire du bien et pour nous relever, pour nous emmener plus loin. Eh bien, si je suis un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, je serai rempli avec cette attitude-là, parce que ça, c'est l'attitude de Dieu. Alors que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, se conserver dans son intégrité, dans la pureté. On vient encore une fois à cette réalité de notre attitude, de ce que nous sommes, de notre vécu. Que montre mon vécu? Mais Dieu, verset 24. Ça veut dire celui qui vous a appelé est fidèle. Et même, la Bible nous dit que lorsque moi je ne suis pas fidèle, lui demeure fidèle. Wow. Celui qui vous a appelé est fidèle. Alors vous pouvez lui faire confiance. Moi, j'aimerais vous confesser ce matin, frères et sœurs, que je fais confiance au Seigneur, mais alors d'une façon totale. Je fais confiance au Seigneur. Je le répète. Je le répète et je le répète encore. Et si je vous le dis ce matin, je ne suis pas en train de vous dire un mensonge, mais je suis en train de vous dire une réalité, une décision que j'ai prise dans mon cœur. Je dis, Seigneur, je vais décider de te faire confiance. Je choisis de te faire confiance. Quoi qu'il arrive. Alors, vous pouvez lui faire confiance. Parce que il fera et il mènera à bonne fin l'œuvre qu'il a commencée en vous. Et Paul va terminer, et on va terminer là-dessus aussi, mais je vous laisserai, si vous pouvez prendre des notes, ou alors je vous enverrai, parce que bon, je ne vous ai pas dit tous les textes que j'avais relevés, mais il y a aussi Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16, je peux vous lire, mais il y a des notions intéressantes dans ce texte. En tout cas, Paul va terminer dans ce chapitre de comment vivre ensemble en attendant le Seigneur. On se rend compte qu'on a les uns et les autres des choses à saisir, en tout cas, ou des choses à saisir, ou si on les a déjà saisies, des choses à conserver, des choses à garder, comme un trésor précieux. Et Paul va donner cette exhortation pour terminer cette lettre aux Thessaloniciens, cette première lettre, il va dire, voilà, je vous en conjure par le Seigneur. Et c'est une des raisons aussi qui fait dire, frères et sœurs, que Paul est en train de s'adresser à l'église de Bouée. Et je vous disais la dernière fois, c'est pour moi qui prêche, en fait, c'est Paul qui nous dit ces choses. Et derrière Paul, c'est Dieu. Je vous en conjure par le Seigneur, veillez, c'est ce que j'ai fait en quelque sorte, à ce que cette lettre soit lue à tous les frères. Est-ce que vous êtes quelqu'un, frères et sœurs, quelqu'un ou quelqu'une, qui est intéressé par ce que l'Esprit de Dieu a dit au travers de la bouche de l'apôtre Paul, aux Thessaloniciens, cette parole, ce que je vous ai partagé dimanche dernier, ce que je vous ai donné là ce matin, eh bien, c'est quelque chose que Paul va dire, veillez à ce que cette lettre soit lue, veillez à ce que cette parole vous soit donnée. Et si Paul, dans son cœur, avait cette interpellation, c'est qu'il savait à quel point c'était important que les Thessaloniciens, que Paul savait à quel point, en tout cas si Paul ne le savait pas, mais Dieu savait à quel point cette parole était importante pour les frères et sœurs de l'Église de Bruxelles. Frères et sœurs, vous savez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Alors, parce qu'on est des enfants de Dieu, parce qu'on est tellement aimés de Dieu, parce qu'on aime le Seigneur, eh bien, voilà, on veut prendre en compte. Parce que Dieu nous dit. Dieu a un regard sur notre vivre ensemble. Avec cette espérance qui est la nôtre, avec cette espérance qui est la vôtre, de l'attente du retour de Jésus, du fait qu'un jour, eh bien, on vivra l'éternité dans sa présence, du fait que ce qu'on vit aujourd'hui, même si c'est une poussière, encore une fois, face à l'éternité, eh bien, cette poussière, aux yeux de Dieu, elle a de l'importance. Ma vie, frères et sœurs, ta vie. Comment je veux dire ça? Frères et sœurs, on peut se regarder les uns les autres, et puis quand on se regarde les uns les autres, on a un regard sur une portion de la vie des uns des autres. On dit, ou là, on peut se dire certaines choses, mais Dieu a un regard total. Rien n'est caché de lui. Rien n'est caché de lui. Mais je pense. En tout cas, j'aime garder ça dans mon cœur, c'est que Encore une fois, je sais une chose, en ce qui me concerne, c'est que Dieu est intéressé par ma vie. Je sais une chose, c'est que Dieu est intéressé par ta vie. Et que Dieu veut te bénir. Quelles que soient les circonstances. Même quand il te permet que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, pour reprendre le psaume 23. Alors que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, frères et sœurs. C'est ma prière, c'était la prière d'apôtre Paul pour les Thessaloniciens. Et ce matin, c'est ma prière, et je crois que c'est, quand je dis ma prière, je crois que c'est le cœur de Dieu qui descend sur chacun de nous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, soit avec nous. Soit avec vous. Amen.
Amen.
Donc, priez pour terminer ce partage. Seigneur. On va tellement se laisser toucher, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, quand tu nous donnes des exhortations, quand tu nous parles de notre vécu, quand tu nous parles de notre vécu ensemble, Père, quand tu nous parles du fait que notre attitude, donc nos décisions, nos choix, notre volonté que nous mettons en application, Seigneur, est importante pour toi. C'est qu'elle doit être importante pour nous aussi, Seigneur. Seigneur, je te prie ce matin que ce que tu avais mis sur le cœur de l'apôtre Paul pour les Thessaloniciens dans ces versets, dans ces chapitres que nous avons lus, Seigneur, eh bien, permets, Père, que, premièrement, on ne soit pas comme des auditeurs oublieux, mais Seigneur, on veut prendre comme quelque chose de précieux, quelque chose d'important. Seigneur, j'aimerais dire ce matin que ce qui est important à tes yeux, eh bien, il est important à mes yeux, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je me trompe, Seigneur, mais merci parce que dans ces fois-là, tu uses de grâce envers moi et tu me prends par la main, comme tu prends chacun de ceux qui veulent être à l'écoute, qui choisissent d'être à ton écoute. Seigneur, viens, jamais tu nous laisses au bord du chemin. Seigneur, tu nous prends par la main, tu nous emmènes. Seigneur, tu nous conduis. Merci, parce que, Seigneur, aujourd'hui, on bénéficie de ta présence en nous. On n'est pas seulement à l'écoute du Saint-Esprit à l'extérieur, mais tu es ce Dieu qui vient parler en nous. Seigneur, continue ton œuvre. Continue ton œuvre en chacun. Seigneur, répands encore et encore ta grâce. Que nous soyons des hommes et des femmes qui montreront au monde, Seigneur, le Dieu que tu es. Et Seigneur, avant de montrer au monde, Seigneur, on est là les uns et les autres pour le vivre au milieu de nous. Seigneur, je crois vraiment que c'était une des raisons pour lesquelles tu as voulu l'Église. Tu as voulu que nous apprenions à vivre comme toi tu le vivais. Seigneur, comme toi tu le désires déjà entre nous, Seigneur. Et quand on vit entre nous, quand ça devient une réalité entre nous, Seigneur, alors on est des témoins extraordinaires du Dieu que tu es dans la société dans laquelle tu nous as placés. Seigneur Jésus, bénis l'Église de Bruay ce matin. Bénis chaque frère, chaque sœur de notre communauté, Seigneur. Ceux qui sont là au milieu de nous, Seigneur, comme ceux qui sont en visioconférence ou ceux qui entendront après, Seigneur. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu m'emmènes encore plus dans ta présence. C'est que tu m'emmènes encore plus dans ta volonté. Que tu m'emmènes encore plus dans ce que toi tu veux pour ma vie. Seigneur, ma prière, Seigneur, c'est que ce que je dis pour moi, Seigneur, cela soit une réalité pour mes frères et sœurs aussi. Oh, je te le prie. Parce que tu nous emmènes, Seigneur, vers notre patrie céleste. Seigneur, je ne veux pas faire partie de ces vierges folles qui se sont endormies. Mais, Seigneur, je veux faire partie de ces vierges sages, même si elles se sont endormies à un moment donné, Seigneur. En tout cas, elles se sont réveillées. Elles avaient leur rempli d'huile, de la consécration. Merci, Seigneur. Je désire me consacrer encore davantage aujourd'hui. Emmène-moi dans la consécration, Seigneur, pour ta gloire à toi, Jésus. Merci. Amen. Amen.